France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, notre invitée ce matin dans le grand entretien, est avocat, écrivain. Vous aurez la parole, ami auditeur, dans une dizaine de minutes pour dialoguer avec lui au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. François Sureau, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Permettez quelques mots supplémentaires. Vos combats d'avocat vous ont conduit à défendre de manière forte, infatigable, les libertés publiques telles qu'elles ont pu, peuvent ou pourraient, par exemple, être menacées par l'état d'urgence ou sa traduction dans la loi. Vos combats vous portent aussi à défendre les réfugiés qui s'installent en France. Vous avez été le premier rédacteur des statuts d'En Marche, le parti politique fondé par Emmanuel Macron, dont on vous a dit proche, peut-être l'êtes-vous encore. Pour toutes ces raisons, votre regard sur la crise des Gilets jaunes nous intéresse. Alors, première question, François Sureau, les semaines qui viennent de s'écouler ne sont-elles pas au sens strict historique, c'est-à-dire imprévues, nouvelles, irréversibles et encore incertaines?
Oui, je crois assez en fait, et je crois que contrairement à ce qu'on lit ici ou là, je crois que c'est un mouvement qui ne s'est pas arrêté, je crois que c'est un mouvement qui est en situation latente et je crois peut-être que c'est un mouvement en phase ascendante. Pour des raisons qui ne touchent pas simplement à une forme de révolte sociale ou une révolte du pouvoir d'achat que le gouvernement a cru pouvoir éteindre en distribuant de l'argent, pour parler simplement, mais parce qu'elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la conception de la démocratie représentative et le rôle de l'État. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les gilets eux-mêmes, les gilets jaunes. C'est quoi un gilet jaune? C'est l'expression physique de ces multiples suggestions que l'État impose aux citoyens. On leur dit « mettez un gilet jaune » et ils mettent un gilet jaune. Comme on leur dit « mettez une ceinture de sécurité à l'arrière de la voiture, faites là où on vous dit de faire, buvez le quinquina du bonnet et engagez-vous dans la Légion étrangère ». C'est, si vous voulez, c'est en réalité l'expression même de la soumission et de l'humiliation du citoyen. Et ce qui est très frappant, c'est que je pense qu'il y a 10 ou 20 ans, d'ailleurs, je crois qu'il faut s'interroger là-dessus, les gens auraient fait des grands autodafés où ils auraient brûlé en masse des gilets jaunes en disant « on est contre ça ». Et non. Là, ils l'endossent comme une sorte de livret d'humiliation et c'est avec ça qu'ils vont manifester. Et ça, d'une certaine manière, je vais vous dire, ça m'a serré le cœur parce que ça veut dire que c'est un citoyen qui disparaît. C'est un citoyen qui disparaît sous l'État. C'est un citoyen qui se cherche et qui n'arrive pas à s'exprimer et qui ne peut le faire qu'en endossant la livrée de l'État. Et pendant ce temps, l'État, en fait, qui lui dit « portez un gilet jaune et mettez votre ceinture de sécurité », augmente les taxes alors que les services publics disparaissent, fait qu'un plein d'essence coûte 10% du revenu mensuel dans certains endroits et qu'il faut faire 50 km parce qu'il n'y a plus qu'une seule maternité par département.
Dans un entretien au Figaro, vous dites que ce mouvement est plus qu'une émeute mais moins qu'une révolution. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est senti obligé de dire à la télévision que la République était solide. Vous l'avez senti vaciller, vous l'avez senti menacer, la République?
Alors, ce que j'ai senti, d'abord, la République est par elle-même un régime instable. La République est fille de l'émeute, la République est la fille de la prise de la Bastille. La circonstance que nous avons tous vue, dans laquelle on casse une statue de Marianne, c'est qu'on casse une idole qui est devenue vide. La République n'est rien si elle ne tient pas les promesses de la République, c'est-à-dire des promesses de progrès, des promesses de continuation de tout ce que les efforts et les luttes des générations précédentes nous ont apporté.
Mais pourquoi
si elle n'est pas là,
voyez...
elle n'est rien. Ce n'est pas un régime hérité.
Oui, voilà. Mais pourquoi vous n'y voyez pas une révolution pour autant?
Alors, j'y vois pas une révolution parce qu'il me paraît y manquer quelque chose, si du moins on se réfère aux révolutions du passé. Mais Tocqueville dit très bien dans les souvenirs de 48, révolution à laquelle celle-ci fait assez penser en réalité, Tocqueville dit très bien que les gouvernants ont toujours le défaut de rentrer dans les insurrections avec le souvenir de l'insurrection précédente. Ce qui manque en tout cas par rapport à 89, c'est cette idée du progrès, cette idée au fond que nous allons rendre un système politique plus juste et plus efficace. Dans 89, il y a le désir de l'égalité des droits, et puis il y a aussi le désir de la politique des intendants, c'est-à-dire plus de routes, un système fiscal plus efficace, quelque chose qui fonctionne mieux. Il y a un optimisme, malgré tout, dans 89, qui est tout à fait caractéristique. Cet optimisme, et c'est ça qui me paraît assez triste, a assez largement disparu. Ce qui fait que ça n'est pas une révolution au sens où on l'entendait autrefois, mais que c'est plutôt l'expression d'une sorte de malheur social moderne, que je trouve extrêmement poignant. Il est clair que il y a eu des tas de choses qui sont exprimées de très bonnes et de très mauvaises dans ce mouvement. Mais les gens qui vont manifester, qui vont ensemble sur les ronds-points, en fait, ils y trouvent une manière d'être ensemble, d'être une communauté, d'être à plusieurs, de ne pas simplement être au supermarché ou devant la télévision, d'être à plusieurs, comme on l'était autrefois, dans un parti, dans une église, etc. Mais ça ne débouche pas, ça ne les entraîne pas à un optimisme particulier.
Et qui sont ces gens, François Sureau? Est-ce que dire « c'est le peuple » est une manière de les caractériser?
Je sais pas, j'ai une hésitation là-dessus parce que, en fait, d'une certaine manière, je ne sais pas répondre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'invocation du peuple, je la trouve extrêmement inquiétante à certains égards, parce qu'elle sert à justifier toutes les passions qui sont celles du peuple en tant que nous aussi, nous appartenons au peuple. Nous avons des passions. Et donc, quand on parle du peuple, on dit au fond, le peuple ne se trompe jamais. Cette espèce de grosse bête dont parle Victor Hugo et qui est à la fois aimable et dangereuse et qui ne se trompe jamais. Ça, c'est inquiétant et c'est pour ça qu'on hésite à employer ce mot. Mais en même temps, il est clair que il y a quelque chose, en tout cas, du peuple dans la mesure où l'État, lui paraît désormais étranger. Et s'être mis les citoyens à son service au lieu que ça devrait être le contraire.
Voilà. Alors l'État lui paraît étranger aussi à cause de la langue, du langage. Vous dites que c'est aussi un ras-le-bol contre le langage que parlent les politiques, un langage de maboule.
Oui, c'est un langage de maboule. La confiscation de l'activité politique par le langage de l'administration, par le langage de la technocratie, quelque chose d'absolument surprenant. Allez sur YouTube, regardez la manière dont parlait Mitterrand ou Pompidou, vous serez saisis, vous êtes absolument sur une autre planète. C'est-à-dire, on ne désigne plus les choses.
Mais c'était une langue spécifique aussi.
C'est une langue spécifique, bien sûr, mais qui était la langue que parlait, pour le coup, le peuple. Ça n'était pas une langue différente, c'était la langue d'une époque où, je veux dire, il y avait du Victor Hugo chez les ouvriers et chez les paysans. Je veux dire, c'était une langue différente, avec une éducation différente, et à l'heure actuelle, on assiste à des choses. Il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, par exemple, c'est les assises de la mobilité. J'ai vu quelque chose se dégrader dans le pays quand j'ai vu apparaître les assises de la mobilité. On est assis et on bouge. Ce sont les assises de la mobilité. Vous avez pensé à ce que disait un vieux gaulliste, pourquoi les assises, la correctionnelle aurait suffi. Et après ça, il y a eu pire. Il y a eu la loi d'orientation des mobilités. En plein milieu, au plein début de la crise des Gilets jaunes, on fait passer une loi de 80 pages qui prévoit le fichier national des cyclistes, l'interdiction de construire des carrefours en amont des ronds-points, les péages urbains, enfin, et tout ça exprimé dans une langue invraisemblable où le maire de Trifouilly-les-Oies se voit qualifié d'AOT, autorité organisatrice de transport. Il n'y a plus de brigade de gendarmerie, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de café, mais tenez-vous bien, le maire est une autorité organisatrice des mobilités. C'est surréaliste.
Le référendum d'initiative citoyenne a été mis dans le débat par des Gilets jaunes. François Sureau, dans sa définition extensive, il peut imposer une proposition de loi à l'agenda, il peut abroger une loi qui existe, il peut révoquer les élus, réécrire la Constitution. Voilà, les gens vont pouvoir reprendre la parole et sortir du langage de maboule, comme vous venez de le décrire. Comment voyez-vous cette perspective?
C'est très très simple. Je pense que ce qui m'inquiète n'est pas que les gens la proposent, c'est un mouvement naturel de le proposer. Dire moi-même, instinctivement, je serais assez pour le fait de donner mon opinion sur des tas de sujets absolument en permanence. Ce qui m'inquiète plus, c'est que des gens sérieux, des membres du gouvernement par exemple, reprennent cette idée qui fait exactement passer de la technoparade au Club des Cinq en deux cases, sans arrêt sur la case de la réflexion. Parce que c'est bien ça le sujet.
Pourquoi vous êtes si critique avec le fait que le gouvernement reprenne l'idée du référendum populaire?
Parce que nous avons un devoir, et je le dis avec la gravité d'un simple citoyen, nous avons un devoir, c'est de sauver la démocratie représentative. On ne peut pas sauver la démocratie représentative, c'est-à-dire l'idée que le peuple délibère par des représentants élus, en décrédibilisant en permanence ses représentants sur les sujets d'intérêt national. Un exemple très simple, il y a deux types de choses sur lesquelles vous pourriez faire en théorie un référendum. Premier type de chose, une politique complète. Vous voyez bien qu'une politique complète, est-ce que j'augmente les impôts ici, que je baisse ceux de telle catégorie, est-ce que je favorise la fiscalité du travail ou la fiscalité du capital, ne se prête pas à un référendum. C'est des sujets à multiples entrées, donc ça ne se prête pas à un référendum. On peut pas le faire. On va tomber sur quoi? On va tomber sur des sujets sociaux. Et on va tomber sur les sujets d'indignation populaire nette, comme on l'a fait par exemple au cours des référendums suisses. Et vous aurez le rétablissement de la peine de mort, vous aurez la suppression du Sénat, vous aurez les étrangers remis à la mer. C'est ce qui se passera. Un référendum d'initiative populaire commence toujours en Suisse par une question de gauche. Faut-il instituer un SMIC? Faut-il faire un revenu universel? Faut-il supprimer les privilèges fiscaux de certains cantons? Et le résultat, c'est les trois exemples que je viens de donner, sont négatifs. Non, il ne faut pas faire un SMIC. Non, il ne faut pas supprimer les privilèges fiscaux de certains cantons. Non, il ne faut pas faire un revenu universel. Mais en revanche, on peut supprimer les minarets. C'est ce qui va se passer. J'ajoute qu'il y a un autre problème.
Donc non, il ne faut pas donner la parole au peuple, de manière directe.
Alors, comment dire, on la lui donne. Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est que le peuple. Quand on parle de la souveraineté du peuple, c'est une question extrêmement importante. La souveraineté du peuple, c'est la souveraineté du peuple français, tel que, au travers de l'histoire, de ses luttes, de ses combats et de ses guerres, il a réussi à fabriquer un régime de liberté. Ça n'est pas la licence donnée à une génération du peuple, la nôtre, de détruire les progrès que les générations antérieures ont faits. Nous devons penser ces affaires-là dans la continuité. Et quand on dit « donner la parole au peuple », c'est donner la parole au peuple pour désigner ses représentants et pour les contrôler. Et là-dessus, plutôt que sur le référendum d'initiative populaire, il y a énormément de choses à faire, dans la mesure où le Parlement, qui devrait contrôler les gouvernements, depuis une trentaine d'années, s'est simplement transformé en une espèce de monstrueux chef de bureau, serviteur d'un État entièrement ordonné à l'activité normative, au lieu d'exercer de véritables prérogatives de contrôle. Il est là le progrès.
Ça suffira de dire redonnons au Parlement un pouvoir qu'il n'a jamais vraiment pris, perfectionnons encore la démocratie représentative et retrouvons-nous à la prochaine élection présidentielle. Ça suffira dans le contexte encore ouvert qu'on vient de décrire.
Alors non, présenté sous cette forme, non, s'il s'agit juste de faire les réformes constitutionnelles dont on a l'habitude, dans lesquelles on va donner trois pouvoirs supplémentaires à la commission machin, à l'Assemblée nationale, ça va certainement pas suffire. En revanche, ce que je pense, c'est que ce que vous recherchez, ce qu'on peut rechercher par le référendum d'initiative populaire, il faut être inventif et il faut le faire rentrer dans la boîte, si je puis dire, des institutions représentatives. Et par exemple, les procédures de consultation. Vous voyez, par exemple, le Conseil économique et social est un machin qui sert à rien. On pourrait tout à fait imaginer qu'à l'intérieur du Conseil économique et social, vous ayez les quatre commissions dont le gouvernement parle, qu'il y ait des consultations électroniques absolument générales, où les gens se présenteraient avec des pétitions signées par 1000, 2000, 3000, 10 000, 50 000, 200 000 suiveurs. Ensuite de quoi un travail de synthèse serait fait, on transporterait l'ensemble à l'Assemblée nationale et on ferait des auditions ouvertes sur ces bases en y adjoignant des citoyens tirés au sort selon le modèle irlandais. Bon, si vous faites ça, vous avez fait faire un pas de géant à la démocratie, mais vous n'avez pas couru le risque d'annuler les bénéfices des combats pour les libertés ou pour la justice de nos parents et de nos grands-parents.
Mais pourtant, vous voulez annuler le quinquennat, vous dites que c'était une mauvaise idée, vous voulez passer au sextennat et vous voulez des mandats de 4 ans pour les députés.
Ça fait un peu concours l'épine du droit constitutionnel. Mais ce qui me frappe, c'est de...
Vous êtes un peu langage de ma boule, vous aussi, là, le sextennat, le...
Ouais, c'est pour ça que je...
Il a dit 6 ans, c'est nous qui avons ajouté sextennat.
Voilà,
c'est ma boule partagée.
Absolument. Alors, si vous voulez, dans ce... Je pars de deux constatations. D'abord, on a un problème quand même, et ça c'est le problème de la République, c'est un problème que les monarchies parlementaires n'ont pas, c'est la confusion permanente de la fonction de représentation, c'est la fonction d'incarnation et de la fonction de gouvernement. Bon. Quand vous avez quelqu'un qui incarne et qui gouverne, les gens ne lui reconnaissent plus le droit d'incarner parce qu'il prend de mauvaises décisions de gouvernement, et s'il ne fait que gouverner, on dit il incarne pas assez. Et ce problème s'est posé à tous les présidents de la Ve République moderne. Bon. C'est déjà un problème. Avec le quinquennat, avec coexistence des mandats, en fait, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau président est élu, pendant 5 ans, il ne se passe rien. Ça n'est plus le temps de l'action politique actuelle. Pendant 5 ans, il ne se passe rien. Donc, en fait, le Premier ministre n'existe plus, il n'est plus qu'un pseudopode du président. Le président, passé l'état de grâce, concentre immédiatement sur lui la colère sociale. Son parti n'est même plus tenu par la logique des investitures, puisque au fond, son mandat va s'achever avec celui du président. Il est même pire. En réalité, son parti est en permanence porté à le trahir, comme on l'a vu avec Hollande, au moins pour une partie d'entre eux, ou à se dissoudre. Et donc, pour moi, ce qui est très important, c'est de rétablir une vraie démocratie parlementaire, la discordance des mandats entre le mandat de l'Assemblée et le mandat du président rendant possible une perspective de cohabitation qui amène tout le monde à se structurer, à proposer des programmes, à redonner vie au parti, à retrouver une activité politique normale, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
On passe au standard où nous attend depuis la Haute-Savoie Arnaud. Bonjour et bienvenue.
Bonjour France Inter et merci pour vos émissions. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, j'ai une question double à vous poser. Ne pensez-vous pas que le RIC n'est pas assez moderne? Moi, je proposerais plutôt que l'on remplace le Sénat par une assemblée des maires, choisie avec une surreprésentation du monde rural pour compenser la surreprésentation urbaine que représentent les députés actuels. Première chose. Et deuxième chose, réduire la durée du mandat, au contraire de ce que vous venez d'affirmer, du mandat présidentiel, à 2 ou 3 ans, pour finir avec le vote d'un roi qui ne dit pas son nom. Et vous avez entendu, comme nous tous, que les Gilets jaunes n'en veulent pas du tout au gouvernement, seulement à un homme qu'ils considèrent comme, évidemment, Jupiter. Mmh. Ce qui est absolument agaçant, parce que la vraie politique vivante, c'est celle qui se passe dans des assemblées où ça discute, et ainsi de suite.
Merci beaucoup Arnaud pour cette question. François Sureau vous répond.
Ben, vous voyez, ça c'est précisément ces deux questions-là. C'est ce que j'aimerais, ce sont les questions dont j'aimerais qu'on se saisisse précisément dans le cadre d'un débat absolument général dont je viens de parler, parce que ce sont deux questions sur lesquelles, pardon de dire ça, ça paraît, mais ce sont de très bonnes questions, comment dire. La première question, vous avez raison, sur le Sénat, il faut réfléchir au rôle du Sénat. On pourrait aussi envisager de le faire passer à la proportionnelle intégrale pour que la totalité des courants d'opinion soient représentés, alors qu'il y a à l'heure actuelle une sous-représentation.
Vous allez avoir un malaise chez Gérard Larcher, parce qu'il veut zéro de proportionnel, lui.
Je vais vous dire, on s'en fiche complètement. La démocratie représentative est en jeu, ce que se penche M. Machin ou M. Truc, pour le coup. Ça, c'est la souveraineté du peuple, c'est pas la souveraineté des propriétaires des fonctions parlementaires. Donc ça, c'est, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on peut y réfléchir. Sur la deuxième partie, qui est la réduction du mandat présidentiel, on pourrait, il y a des choses qu'on peut faire. L'essentiel pour moi, c'est de retrouver une capacité d'action publique qui soit efficacement contrôlée dans un système de partis qui fonctionne. On peut aussi envisager de revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel, ou, si on la garde, de le transformer en président de la République à la portugaise avec moins de pouvoir, le premier ministre ayant à ce moment-là beaucoup plus de pouvoir. Mais ça supposerait de faire un mouvement vers un mode de scrutin différent, par exemple le scrutin anglais, uninominal à un tour, qui dégage 2 majorités, une de droite, une de gauche, et tout le monde sait
où on est. Là, vous réfléchissez par plaisir, François Sureau, vous dites peut-être que la 5e République est arrivée cette année à son terme, et qu'on en aura peut-être une 6e très différente, extrêmement différente, l'an prochain ou l'année d'après.
Ben, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'il y a deux choses, si vous voulez. Ça n'est pas simplement un problème constitutionnel. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je pense que si on en revenait à ce qu'était la 5e République à ses débuts, en 58-62, on arriverait probablement à quelque chose de plus satisfaisant. Ça, c'est certainement... Je pense que le quinquennat, en réalité, nous sommes déjà sortis de la 5e République qu'avait voulu le général de Gaulle quand on a fait le quinquennat avec coexistence des mandats. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a un problème tout à fait différent, plus large, qui est en réalité... Nous avons cessé d'avoir un projet politique collectif, et c'est la raison pour laquelle toute l'activité de l'État, y compris l'activité du Parlement, se tourne désormais vers la fabrication de normes en nombre de plus en plus important, parce que, au fond, nous avons perdu l'idée de cette espèce de salut par la politique, même quand vous regardez la fin des... Moi, j'adore la fin des mots de Sartre, c'est magnifique, vous voyez comment l'idée du salut religieux est passée dans l'idée du salut politique. Quand il dit « rien dans les mains, rien dans les poches, je me suis mis au travail pour me sauver tout entier par le travail et par la foi », si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Il y a là-dedans une formidable espérance du salut politique qui ne trouvera pas sa solution dans le tripatouillage éternel de l'article 284 quinquies B.
Sur ce que disait notre auditeur également, sur la figure d'Emmanuel Macron sur laquelle s'est cristallisée la colère, vous qui le connaissez, qui êtes, même si l'expression est ridicule, un conseiller de l'ombre, qui avait écrit les statuts d'En Marche, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé pendant cette année et demie de pouvoir, c'est-à-dire la première année d'état de grâce, où il faisait passer tout en marchant sur l'eau, et puis soudainement, depuis cet été, je ne sais pas où est-ce que vous
datez le début.
Est-ce que c'est Borloo, est-ce que c'est Benalla, est-ce que c'est Hulot, ou est-ce que c'est les Gilets jaunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle erreur a-t-il fait?
J'en suis pas franchement le meilleur commentateur possible, et ça me gêne un peu d'en parler, mais ce qui me semble quand même. D'abord, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense qu'il est, il arrive à un moment où se règle peut-être 30 ans de déni de réalité française sur le plan économique, financier et politique. En d'autres termes, ce qui lui arrive, à mon sens, serait, à ses caractéristiques personnelles près, arrivé différemment, mais arrivé tout de même à n'importe lequel des autres candidats qui auraient été élus à la présidentielle précédente. Et ça, ça me frappe énormément. C'est-à-dire qu'il porte le poids d'un déni de réalité massif. Et je vous donne ce qui me frappe dans le déni de réalité, c'est les discours qu'on entend à propos des gilets jaunes. Vous avez la moitié des gens qui disent, au fond, y compris des membres du gouvernement, au fond, ça arrive parce que nous avons réformé comme des bêtes, on a eu une activité absolument extraordinaire et on est allé trop vite pour les gens.
On a été trop intelligent et trop subtil. Oui.
En réalité, on n'a rien fait. En réalité, on a tripatouillé 3 articles du Code du travail, la dette et la dépense publique ont augmenté, les réformes de structure sont extrêmement faibles. Donc, l'alibi selon lequel... Mais en revanche, on a surchargé des calendriers parlementaires, des articles de loi, un mouvement normatif illisible auquel plus personne ne comprend rien. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce qui se passe
La loi travail, la réforme de l'ISF, la réforme de la SNCF, pour vous, c'est rien, c'est du tripatouillage ?
C'est-à-dire que nous avons 2700 milliards d'euros de dette, on finance à crédit notre modèle social, on a un problème de retraite absolument gigantesque, on a une structure de l'État qui ne fonctionne plus, on a un système institutionnel à la ramasse. Tripatouillage, j'exagère naturellement, c'est mon côté un peu Colin Ronchon, mais en réalité, oui, ça n'est certainement pas à la hauteur des enjeux. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre partie qui explique que ce qui se passe, c'est parce que les gens protestent contre la dureté de l'hyperlibéralisme. Dureté de l'hyperlibéralisme dans un pays qui est massivement contrôlé par l'État, où les prélèvements publics sont extrêmement élevés, la fiscalité d'ailleurs du travail est beaucoup plus lourde proportionnellement même que dans d'autres pays comparables par rapport à la fiscalité du capital, où on a une masse de dette absolument énorme, on ne peut pas dire que nous soyons dans un pays hyperlibéral. Et ce qui me frappe, c'est que ces deux éléments de déni de réalité, tendant d'un côté à se prévaloir d'une réforme insuffisante et de l'autre à déplorer une réforme massive, ces deux faces du déni de réalité français, qui donnent à notre politique un aspect absolument fictionnel quand on l'écoute, c'est ça dont il faudrait, à mon avis, que les institutions, en particulier parlementaires, débattent.
Pour prolonger la question de Léa, Gérard Collomb a parlé, lui, d'hubris, le péché de démesure dans la tragédie grecque, le héros transgresse. L'ordre du monde fait preuve donc d'un péché de démesure avant que la némésis ne s'abatte sur lui. La référence est frappante, elle a frappé d'ailleurs, mais est-ce vraiment sincèrement de cet ordre-là ce qui s'est passé ces 18 derniers mois?
Celui dont vous parlez, c'était celui qui pleurait le jour
du président de la République.
C'est celui-là?
Non, là c'était le ministre de l'Intérieur.
Oui, tout à fait, le jour de l'intronisation d'Emmanuel Macron.
No comment.
Que vous en voulez à Gérard Collomb d'avoir lâché
J'en veux à personne, mais
non,
si
mais
vous
trouvez que c'est...
J'en veux à personne, mais enfin, je veux dire, l'hubris est des deux côtés. L'hubris est dans l'excès d'espérance, et l'hubris était dans l'excès d'espérance, et l'hubris est dans l'excès de déception. Et comme tout ce qui est excessif est négligeable, ces propos n'ont à mes yeux aucun intérêt.
Donc il n'y a rien à dire sur le caractère propre d'Emmanuel Macron. Pour vous, il paye 30 ans, ça serait arrivé à un autre.
Je pense que ça serait arrivé à un autre. Maintenant, je pense qu'il y avait trois promesses de la campagne électorale, et peut-être n'ont-elles pas été tenues. Il y a une promesse d'autorité qui a été tenue au début, par rapport au gouvernement précédent. Il y a une promesse, une sorte de bienveillance participative, vous voyez, d'empathie générale et d'association de tous, qui s'est trouvée étouffée par le mouvement technocratique, ça, il n'y a absolument aucun doute. Et puis il y avait une promesse de renouvellement profond des structures. Et ce renouvellement n'a pas eu lieu. Il y a eu un dégagisme et une arrivée de nouveaux parlementaires qui ont très vite chaussé les bottes de l'hyperactivité absurde de leurs prédécesseurs. Et là-dessus, ça me paraît des questions plus sérieuses que des questions psychologiques personnelles.
Une dernière question par l'application France Inter. C'est Eric qui dit que pour lui, l'utilisation du gilet jaune dans son rôle initial, c'est « je suis en danger, vous me voyez, ne m'écrasez pas ». Et il vous rappelle simplement cet état de fait. C'est pas l'état mère poule ou papa poule, c'est juste, voilà, je suis un citoyen au bord d'une route et ne m'écrasez pas.
Écoutez,
vous prenez l'amendement.
Je prends l'amendement parce que je trouve ça. Je me suis interrogé sur ce gilet et je trouve que cette représentation est en effet juste. Et puis il y a aussi derrière tout ça quelque chose qu'il faut jamais oublier. C'est il me semble que l'ordre du monde est injuste peut-être parce qu'il est devenu plus visible. Les gens modestes, il y a Si vous voulez, il y a encore 50 ans ou 100 ans, et je ne suis pas un adepte de la nostalgie du passé, hein, mais les gens modestes, il y a 50 ou 100 ans, au fond, ils étaient tenus par un espoir collectif, l'espoir du parti, l'espoir du changement politique, l'espoir du salut, l'espoir de quelque chose, et en tout cas, ils ne voyaient pas le prix des montres partout. À l'heure actuelle, il n'y a plus cet espoir, mais en revanche, la société paraît révérer uniquement cet argent que personne ne leur donne, et c'est au sens propre insupportable.
François Sureau, merci, avocat, on l'a entendu, écrivain aussi. Merci d'avoir été au micro d'Inter.